Chapitre 19. Madame Darverne ne s'était pas trompée dans ce qu'elle avait dit de son mari. Quand il avait su qu'elle n'avait point paru à Vaupéreux où elle avait dit aller, il n'avait point douté qu'elle ne fût en promenade avec le duc de Nauruze. Cela était trop clairement indiqué pour qu'il pût avoir de l'incertitude à cet égard. Il connaissait sa femme. Mais cette promenade se prolongeant et ses angoisses de mari trompé et amoureux devenant chaque jour de plus en plus cruelles, il s'était demandé, comme elle l'avait très bien prévu, s'il n'était point arrivé quelque terrible catastrophe. Les suppositions les plus sinistres, les hypothèses les plus insensées avaient traversé et hanté son esprit enfiévré. Folle, morte, sous le coup de ses craintes, il n'avait pas pu rester à attendre un retour qui peut-être n'aurait jamais lieu. Si ridicule que soit la situation d'un mari qui cherche sa femme, disparue en même temps qu'un jeune homme de son intimité, il fallait qu'il bravât ce ridicule, il fallait qu'il la cherchât, qu'il la fît rechercher. Il ne fut pas difficile de découvrir qu'en sortant de l'hôtel, Madame Darverne s'était fait conduire à la gare Saint-Lazare et qu'une malle lui appartenant avait été déposée à la consigne. De cela résultait la preuve qu'elle n'était point partie le matin de Paris. Où avait-elle été? Il avait été impossible de le savoir, car elle avait quitté, au chemin de fer, la voiture qui l'avait amenée. On ne la retrouvait, ou plutôt, on ne retrouvait sa trace qu'à 6 heures du soir, au moment où la malle avait été reprise à la consigne par un facteur. Ce facteur, interrogé, se rappelait avoir chargé cette malle sur un fiacre où se trouvait une dame qui lui avait donné 2 francs, mais c'était tout. Il n'avait point fait attention au numéro de la voiture ni à son cocher. Jusque-là, M. Darverne avait dirigé lui-même les recherches. Arrivé à ce point, il avait été obligé de s'adresser au préfet de police, mais sans tout dire et en cachant une partie de la vérité, en l'arrangeant. Le cocher avait été découvert, ou plutôt, on avait découvert un cocher qui avait chargé une malle à la consigne de la gare Saint-Lazare à 6 heures ce jour même. La dame à laquelle elle appartenait était grande, élégante, âgée de 28 à 30 ans. Il l'avait menée à la gare du Nord, où elle avait pris le train de Calais de 7h45. Elle était seule. On s'était égaré sur cette fausse piste et on avait suivi la dame grande et élégante jusqu'à Calais, où elle s'était embarquée seule sur le vapeur de Douvres en destination de Londres. Comment poursuivre les recherches en Angleterre? M. Darverne avait dû les abandonner. Alors il avait fait faire une enquête minutieuse pour savoir si le duc de Nauruze s'était embarqué pour l'Angleterre au Havre, à Dieppe, à Boulogne, à Calais, même à Granville et à Saint-Malo, pour le cas où il serait passé par les îles anglaises. Cette enquête avait démontré qu'on ne l'avait pas vu. À la frontière belge et allemande, pas davantage. Le duc n'avait donc pas quitté la France en même temps que Madame Darverne et avec elle. Si cette conclusion rassurait sa jalousie et sa dignité de mari, elle n'avait par contre aucune influence sur ses craintes. Que le duc de Nauruze fût resté en France, cela ne faisait pas que Madame Darverne ne fût pas en Angleterre. Où? À Londres ou ailleurs? Vivante ou morte? Et il restait livré à toutes ses angoisses, impuissant pour rien entreprendre, ne pouvant qu'attendre en cachant son désespoir pour répondre avec des sourires et par des mensonges laborieusement inventés à ceux qui lui demandaient des nouvelles de la duchesse. Au reste, ceux qui lui adressaient ces questions étaient assez rares, car pour le monde, qui ignorait le récit du cocher et l'histoire de la dame grande et élégante s'embarquant seule pour l'Angleterre, Madame Darverne était tout simplement enfermée quelque part aux environs de Paris, dans quelque petite maison bien cachée, où elle passait une lune de miel avec son amant, le duc de Nauruze, qu'elle avait enlevé. Le retour de Madame Darverne à Paris avait fait taire ses propos pendant 3 jours et dérangé toutes les suppositions, car elle revenait seule, affirmant qu'elle avait été passée quelques semaines en Écosse auprès d'une de ses parentes. Mais le duc de Nauruze était revenu à son tour et, comme ils avaient repris leurs anciennes habitudes, se montrant partout ensemble, les propos avaient recommencé et ce qui n'avait été que supposition était devenu certitude. Pour tout Paris, le duc de Nemours était l'amant déclaré de la duchesse d'Arverne. Cela était notoire, on en parlait ouvertement. Monsieur de Condrieu-Revel s'intéressait trop à son petit-fils, à son cher petit-fils, pour n'avoir pas été un des premiers à connaître cette liaison. Mais lorsqu'on lui en avait parlé, il avait refusé d'admettre que cela fût possible. « Je ne peux pas le croire !» avait-il répondu d'un air désolé. « Je ne peux pas le croire. Ce serait un trop grand malheur. On dit que Madame d'Arverne est une femme passionnée. On raconte d'elle des choses effrayantes pour un père. Si ce malheureux enfant, mon petit-fils, mon cher petit-fils, était son amant, sûrement elle le tuerait. Oui, elle le tuerait. Il a besoin de tant de ménagements avec sa santé déplorable et portant en lui tous les germes de faiblesse qui lui ont été transmis par son père infortuné. » Le jeudi qui suivit le retour de Madame d'Arverne à Paris, il s'empressa d'aller lui faire sa visite et elle eut pour lui des prévenances, des câlineries qu'elle ne montrait pour personne. Malgré la guerre qui régnait entre le petit-fils et le grand-père, elle se trouvait instinctivement portée à une sorte de respect envers celui-ci. Mettant à profit les attentions qu'elle lui témoignait, il l'amena tout doucement dans le boudoir où avait eu lieu son entretien avec Roger et où il avait la presque certitude de pouvoir lui parler librement en tête à tête, sans crainte d'être entendu ni dérangé. « J'ai éprouvé une grande angoisse en votre absence, lui dit-il, une très grande angoisse. Et vous savez combien, en mon âge, dans ces années de grâce que Dieu m'accorde, les émotions ont de prise sur notre pauvre vieux cœur. Il faut que vous sachiez que mon petit-fils, le duc de Nemours, a fait aussi une absence. » Madame d'Arverne le regarda en face. Mais le visage impassible de Monsieur de Condrieu ne se laissait pas facilement pénétrer. Enlevé par une femme charmante qu'il aimait éperdument. « En quoi cela a-t-il pu vous causer des angoisses, si elle est charmante ?»« On m'assure qu'elle l'est, car je ne la connais pas, son nom ne m'ayant pas été révélé. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que mon petit-fils aimait cette femme éperdument. De là mon angoisse, que vous comprendriez si vous connaissiez mon petit-fils, comme moi. C'est une nature passionnée, violente, désordonnée, et tellement ardente que s'il aimait une femme éperdument, comme on me le disait, il se tuerait pour elle. La passion dévorerait sa vie, la dévorerait. Vraiment ? Cela n'est que trop certain. Heureusement, je me suis tourmenté à tort. Mon petit-fils n'aime pas cette femme. Qui vous l'a dit ? Personne, personne. Mais je viens de le voir, car il arrive aussi de voyage. Il arrive. En effet, c'est sa première visite qu'il nous fait ce soir. En le voyant, j'ai compris que cette grande passion dont on m'avait parlé n'existe pas, car je ne l'ai jamais vu si frais, si dispos, en si bon état, et bien certainement, ce n'est point là un jeune homme dont la passion dévore la vie. Je ne dis pas qu'il ne soit point attaché à cette femme, mais pour l'aimer éperdument, non. Passionnément, non. Pour se tuer, non, mille fois non, et vous m'en voyez bien heureux. Tant qu'il conservera cette belle mine, cet air de santé, je serai tranquille.